Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Hacker News en français. Je suis Claire Martin et avec moi, comme toujours, Nicolas Moreau.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une pile de discussions qui ont un fil rouge assez clair. La confiance. Confiance dans les annonces des laboratoires d'IA, confiance dans les plateformes qui décident de votre sort d'un clic, confiance dans ce qu'on vous vend comme une révolution. Et on va aussi parler d'Apple, de satellites, de radiologiciels dans le navigateur et d'un jeu qui fête ses 10 ans. On commence tout de suite par l'IA, avec deux histoires qui posent exactement cette question de la confiance.
Alors la première, c'est un test de pré-remplissage de raisonnement appliqué à Qwen 3.8. L'idée, c'est qu'on donne au modèle son propre raisonnement comme point de départ. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Le modèle bascule de 18,18 points de pourcentage vers les réponses de GPT-5.5 Pro. Ce décalage est interprété comme un indice suggérant une distillation, c'est-à-dire que Qwen 3.8 aurait été entraîné, au moins en partie, sur les sorties de GPT-5.5 Pro.
Et ce qui est fascinant dans la discussion, c'est le débat sur ce que ce test prouve vraiment. Parce que d'un côté, tu as des gens qui disent « un décalage de 18 points, c'est énorme, ce n'est pas du bruit statistique ». Si le modèle, quand on force son raisonnement, converge vers les réponses d'un autre modèle spécifique, c'est qu'il a internalisé quelque chose de ce modèle. D'un autre côté, tu as des sceptiques qui rappellent qu'un pré-remplissage, c'est un outil de diagnostic indirect. Ça montre une ressemblance, pas un mécanisme. Il pourrait y avoir des explications alternatives, des corpus d'entraînement qui se recoupent, des benchmarks identiques, des données de raisonnement qui circulent partout.
Et il y a une deuxième couche de débat, presque philosophique. Est-ce que la distillation, en soi, c'est un scandale ? Certains commentateurs disent que c'est devenu une pratique standard de l'industrie, que tout le monde apprend des sorties de tout le monde, et que s'en offusquer, c'est de l'hypocrisie. D'autres répondent que le problème n'est pas la technique, c'est le marketing. Si tu vends ton modèle comme une innovation indépendante et qu'en réalité c'est une copie compressée d'un concurrent, tu trompes tes clients et la communauté de recherche. Et ça, ça rejoint exactement la deuxième histoire.
Oui, parce qu'en parallèle, OpenAI revendique une percée mathématique sur Navier-Stokes, qui est un des problèmes du millénaire clé. Et là, ça déclenche une vraie polémique, sur deux fronts. D'abord des allégations de copie de l'approche de chercheurs, ensuite une pression au secret autour de l'annonce.
Là, je trouve que les commentaires sont encore plus clivés. Il y a un camp qui dit « attendons les preuves, une revendication d'avancer sur Navier-Stokes, ce n'est pas une preuve. Les problèmes du millénaire, ça se valide par la communauté mathématique, pas par un communiqué de presse. » Et il y a un autre camp qui dit « le problème de fond, ce n'est pas la validité, c'est la manière. » Si des chercheurs travaillaient publiquement sur une approche similaire, et qu'OpenAI arrive avec plus de moyens, plus de visibilité, sans crédit, et en plus avec de la pression au secret, ça pose une vraie question d'éthique de la recherche.
Et ce qui est intéressant, c'est que certains commentateurs rapprochent explicitement les deux histoires. Ils disent « on a d'un côté un indice de distillation non reconnu, de l'autre une revendication de percée contestée, et dans les deux cas, le problème c'est le même. On n'a pas de transparence sur ce qui se passe réellement dans ces labos, et donc on n'a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. La confiance dans les annonces des labos, c'est devenu un vrai enjeu. »
Et l'inconnu, c'est la suite. Est-ce qu'on va voir des réponses des équipes accusées ? Est-ce que Qwen va commenter les allégations de distillation ? Est-ce que OpenAI va publier les détails, créditer les chercheurs, ou rester silencieuse ? Pour l'instant, personne ne sait. Et je pense que c'est ça qui frustre le plus les commentateurs. Ce n'est pas l'accusation, c'est l'absence de réponse.
Bon, on reste dans l'IA, mais on passe sur un terrain plus technique. Sébastien Drashka a écrit une analyse des Looped Transformers de GPT-6 Astra, et son point principal, c'est que cette fameuse profondeur récurrente, c'est essentiellement réutiliser les mêmes poids pour empiler des couches.
Et il ajoute que ça n'a rien à voir avec le fait de cacher le chain of thought. Donc, si quelqu'un vendait l'idée que les Looped Transformers permettent de dissimuler le raisonnement du modèle, Drashka dit que techniquement, ça ne tient pas debout.
Et dans les commentaires, il y a un accord assez large sur le fond technique. Réutiliser les poids, c'est une technique connue, ce n'est pas nouveau, et ça ne crée pas de magie. Mais il y a un vrai désaccord sur l'interprétation. Un camp dit, même si ce n'est pas fondamentalement nouveau, ça peut quand même donner des gains de performance réels, et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'autre camp répond, si les gains sont réels, montre-les avec des benchmarks sérieux, pas avec un vocabulaire impressionnant. Et je pense que c'est le cœur du débat. Est-ce qu'on est en train d'assister à une innovation architecturale réelle ou à du rebranding de techniques existantes ?
Et en parallèle, sur le terrain des agents, il y a une histoire qui illustre bien la frontière entre le réel et le marketing. GPT-5.6 seul avec Codex a réussi à calibrer seul un chip de 6 qubits au MIT. C'est un vrai succès, il ne faut pas le minimiser. Mais il a échoué sur les signaux bruités.
Et ça, c'est exactement là où le bas blesse. Parce qu'en informatique quantique, le bruit, c'est le problème central. Calibrer un chip dans des conditions propres, c'est une chose. Gérer des signaux bruités, c'est là où se joue la vraie difficulté. Donc les commentateurs se demandent, est-ce qu'on est en train de vendre une capacité d'agent autonome qui ne marche que dans des conditions idéales ? Et c'est une question qui rejoint le débat précédent sur Rajka. Comment distinguer ce qui marche vraiment de ce qui est vendu comme si ça marchait ?
L'inconnu, c'est ce que ces limites impliquent pour les prochains modèles. Est-ce qu'on va voir des architectures spécifiquement conçues pour gérer le bruit ? Est-ce que c'est une limite fondamentale de l'approche agentique actuelle ? Il n'y a pas de réponse claire dans la discussion.
Bon, on va élargir la perspective maintenant avec quelque chose de plus macroéconomique. L'équipe économie d'Anthropic a publié une modélisation de l'impact de l'IA sur l'économie américaine en 2030, avec trois scénarios.
Alors, les trois scénarios, c'est un scénario modeste, où l'impact de l'IA ressemble à celui d'Internet, c'est-à-dire une transformation réelle mais progressive, un scénario substantiel, plus marqué, et un scénario extrême, qualifié d'inédit, tiré par une IA qui s'améliore elle-même.
Et dans les commentaires, la discussion se concentre surtout sur le scénario extrême, parce que c'est celui qui attire l'attention, mais c'est aussi celui qui pose le plus de questions. Certains disent que c'est de la spéculation déguisée en modélisation, que l'auto-amélioration de l'IA, c'est une hypothèse non prouvée, et qu'à partir du moment où tu la poses comme point de départ, tout ce qui suit est déduit de ça, donc ça n'a pas beaucoup de valeur prédictive. D'autres répondent que c'est justement le rôle d'un exercice de scénario, explorer les extrêmes pour encadrer le débat public et les investissements, pas pour prédire l'avenir avec précision.
Et un troisième point de vue, plus pragmatique, qui dit « peu importe si le scénario extrême est probable ou pas ». Ce qui compte, c'est que ce genre de document donne un vocabulaire commun aux décideurs, aux régulateurs, aux investisseurs. Et ça, c'est précieux, même si les hypothèses de départ sont discutables. Mais l'inconnu, c'est effectivement ces hypothèses derrière le scénario extrême. Et l'exercice ne les rend pas transparentes.
Bon, maintenant on va parler de quelque chose de plus concret. L'IA embarquée, les prix qui baissent, et un texte un peu provocateur sur la motivation. Et je pense que ces trois éléments ensemble racontent une histoire cohérente.
Alors, premier élément, Desert Antlabs lance 18 modèles gratuits qui tournent entièrement sur l'appareil, en audio, vision et texte. Et il y a une démo qui a marqué les esprits, Voz, qui transcrit 10 minutes d'audio en 2 secondes sur iPhone, soit environ 300 fois le temps réel.
Et ça, ça génère une discussion très positive dans les commentaires, parce que ça touche à deux vrais problèmes, la vie privée et la latence. Si tu peux faire de la transcription en local, tu n'envoies plus rien dans le cloud, et c'est instantané. Mais il y a aussi des questions légitimes. Quels sont les compromis en termes de taille de modèle, de qualité par rapport aux gros modèles cloud, de consommation de batterie ? Parce que 300 fois le temps réel, c'est impressionnant, mais à quel prix en énergie ?
Deuxième élément. DeepSeek annonce V4.1 Flash, prévu autour du 10 septembre 2026, qui surpasserait V4 Pro sur toutes les métriques clés. Et avec une tarification hors pointe très agressive, 0,15 $ par million pour l'entrée, 0,6 $ par million pour la sortie.
Et là, le débat porte sur la soutenabilité de ces prix. Certains commentateurs voient ça comme une excellente nouvelle pour les développeurs, qui voient leur coût d'inférence s'effondrer. D'autres se demandent si c'est un modèle économique durable ou si c'est une stratégie de conquête à perte. Et il y a une analogie intéressante avec ce qu'on a vu dans d'autres industries. Quand un acteur casse les prix, ça force tout le monde à s'adapter. Mais on ne sait pas encore qui gagne à long terme.
Et le troisième élément, c'est un texte de Gwern, On Really Trying, qui apporte un contrepoint philosophique à tout ça. Le point de Gwern, c'est que la vraie limite, ce n'est pas la technologie, c'est la motivation. Et il donne un exemple frappant. Les scientifiques acceptent d'y passer 30 ans.
Et c'est un texte qui, dans les commentaires, a déclenché une discussion plus profonde que je ne l'attendais. Parce qu'il y a une lecture optimiste et une lecture plus sombre. La lecture optimiste, c'est, justement, l'IA apporte cette patience inépuisable que les humains n'ont pas. Une IA peut travailler sur un problème pendant 30 ans équivalent sans se lasser. La lecture plus sombre, c'est, mais est-ce que la patience suffit ? Parce que la motivation humaine, ce n'est pas juste de la persévérance, c'est aussi de l'intuition, du goût du risque, une capacité à changer de direction quand quelque chose ne marche pas. Et on ne sait pas si une machine peut reproduire ça.
Et je pense que c'est un bon résumé de la tendance générale. L'IA devient rapide, bon marché et patiente. Trois dimensions différentes, mais une même trajectoire. Et la question ouverte, c'est qu'est-ce qui reste spécifiquement humain dans ce tableau ?
Bon, on va changer complètement d'univers maintenant, et parler d'Apple. Il y a eu une salve d'annonces, avec trois produits qui se répondent.
Alors le plus spectaculaire, c'est l'iPhone Duo, le premier pliable d'Apple. Écran le plus grand jamais vu sur un iPhone, 50% de plus que le 18 Pro Max, châssis titane, plus A20 Pro, et eSIM uniquement, pas de slot pour carte SIM physique.
Et sur l'eSTAM uniquement, il y a un vrai débat dans les commentaires. Un camp dit que c'est l'avenir, que c'est plus simple, plus sûr, et que ça libère de l'espace interne pour la batterie ou d'autres composants. L'autre camp raconte ses galères personnelles avec les eSTAM, notamment en voyage, quand tu changes de pays et que l'opérateur local n'a pas un processus eSTAM fluide. Et il y a une critique plus générale. Apple impose sa vision sans toujours tenir compte de la réalité des marchés où l'eSIM n'est pas encore partout.
Ensuite, l'iPhone 18 Pro, qui apporte un capteur fusion 48 mégapixels à ouverture variable, la même puce A20 Pro, une chambre à vapeur pour le refroidissement, et surtout le premier modem cellulaire maison d'Apple, le C2.
Et le modem C2, c'est le point qui fait le plus débat, parce que se passer des modems Qualcomm, c'est un enjeu énorme en termes d'indépendance et de coût. Mais l'inconnu, c'est la fiabilité réelle. Les commentaires regorgent d'expériences personnelles, avec les modems des générations précédentes, des histoires de coupures en zone blanche, de mauvaises réceptions en déplacement. Tout le monde attend de voir ce que ça donne en conditions réelles. Et pour l'instant, personne ne le sait. Et c'est là que se joue la crédibilité d'Apple sur ce composant.
Et enfin, l'Apple Watch Series 12, qui revendique la mesure cardiaque la plus précise du marché en matière de wearable, avec une fréquence plus élevée pour le rythme cardiaque et la variabilité. Mais dans les commentaires, on raille le fait que l'autonomie reste inchangée à 24 heures.
Et le débat est intéressant, parce qu'il y a deux camps. Un camp dit « la précision cardiaque, c'est le vrai progrès, et l'autonomie de 24 heures, c'est un compromis acceptable pour un device que tu portes la journée et que tu charges la nuit ». L'autre camp dit « 24 heures, c'est la même chose depuis des générations, et à un moment, il faut choisir entre ajouter des capteurs et améliorer, ce qui limite vraiment l'usage ». Parce qu'au fond, une montre qui ne dure qu'un jour, ça veut dire que tu ne peux pas partir un week-end sans chargeur.
Petit détour produit, toujours chez Apple, mais plus léger, les AirPods 5. Ce qui est notable, c'est que des fonctions jusque-là réservées au modèle Pro se démocratisent.
Concrètement, les AirPods 5 adoptent l'annulation de bruit à écoute ouverte, avec 50% de bruit en plus supprimé par rapport aux AirPods 4 et le balayage de volume sur la tige. Donc tu n'as plus besoin de payer le prix Pro pour avoir ces fonctions.
Et dans les commentaires, c'est un débat classique de segmentation de gamme. Certains voient ça comme une bonne nouvelle pour le consommateur, d'autres comme une façon pour Apple de rendre moins attractif le surcoût des modèles Pro. Bref, un point rapide avant de changer complètement d'univers.
Alors, on passe maintenant sur le terrain de l'infrastructure Internet et de la sécurité, avec deux histoires qui, curieusement, se répondent.
La première, c'est RedDox, qui subit son plus grand DDoS. On parle de 5,5 millions de requêtes par minute, soit environ 100 fois le trafic normal, et ça a duré environ 10 jours.
Et ce qui rend cette attaque notable dans la discussion, c'est sa sophistication. Elle était distribuée globalement, avec de la randomisation TLS et d'entête, et des techniques de contournement de cache. Donc ce n'est pas une attaque brute qui essaie de saturer par le volume uniquement. C'est une attaque pensée pour échapper aux défenses classiques.
Et dans les commentaires, les gens qui gèrent de l'infrastructure racontent leurs propres expériences avec ce genre d'attaque. Il y a un accord sur le fait que ce type d'attaque est devenu plus facile à monter, avec des botnets accessibles et des outils disponibles. Le débat porte sur les défenses. Certains disent qu'il faut plus de coopération entre les CDN et les opérateurs réseau. D'autres que la vraie réponse, c'est l'architecture elle-même, avec du caching agressif et de la redondance en amont.
Et justement, la deuxième histoire fait écho à ça, parce qu'elle parle de quelqu'un qui a bâti certaines de ses défenses. Lee Holloway, cofondateur et CTO de Cloudflare, celui qui était derrière l'Anycast et les technologies fondamentales de Cloudflare, se retire pour cause de démence frontotemporale.
C'est une nouvelle triste, et les commentaires sont unanimes pour saluer son parcours. Il avait aussi créé Project Honeypot avant Cloudflare. Et le lien entre les deux histoires, c'est que la défense contre ce type d'attaque distribuée, celle que RedDox a subie, repose en grande partie sur les fondations que Holloway a posées. Donc quand on parle de la montée des DDoS sophistiqués, on parle aussi de l'héritage de quelqu'un qui a passé sa carrière à construire les remparts.
Bon, maintenant on va parler de la discrétion arbitraire des grandes plateformes, avec deux histoires qui illustrent des facettes différentes du même problème.
La première, c'est un développeur indépendant qui a créé RAS, un multiplexeur terminal écrit en Rust. Il a vu son compte Google Ads suspendu pour logiciel malveillant, alors que ses analyses de sécurité étaient propres. Et quand il a fait appel, les recours ont été rejetés sans explication.
Et dans les commentaires, il y a une empathie très forte pour ce genre de situation, parce que beaucoup de développeurs indépendants en ont vécu des versions similaires. Le problème soulevé, c'est l'absence de processus. Pas d'explication, pas de recours effectif, pas de personne à contacter. Tu es jugé par un système automatisé et tu n'as aucun moyen de te défendre. Et le fait que les analyses de sécurité soient propres ne change rien parce que personne ne regarde les analyses.
Et il y a un débat sur les solutions. Certains disent qu'il faut une régulation, un droit à l'explication et un droit au recours humain. D'autres répondent que la vraie réponse, c'est la diversification. Ne pas dépendre d'une seule plateforme pour sa distribution ou sa monétisation. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand tu es un développeur solo.
La deuxième histoire, c'est le procès X contre Project Bluebird. Et le verdict, c'est que Tweet et le logo oiseau sont jugés probablement abandonnés. Mais X conserve Twitter via la mention « formerly known as ».
Et c'est une histoire qui semble anecdotique, mais qui touche à une vraie question juridique. Quand une marque est-elle abandonnée ? X a changé de nom et de logo, mais veut garder les droits sur l'ancien nom. Les commentateurs se demandent si c'est tenable et si la notion de « formerly known as » suffit à justifier la conservation d'une marque qu'on utilise plus activement.
Et le thème commun avec l'histoire de race, c'est que dans les deux cas, une grande entité exerce un pouvoir discrétionnaire et l'utilisateur ou le développeur n'a pas beaucoup de leviers. Que ce soit une suspension de compte publicitaire ou une revendication de marque, c'est la même asymétrie de pouvoir. Et ça, ça amène naturellement à la question de la gouvernance des projets open source, qui est notre prochain sujet.
Oui, parce qu'on a deux histoires qui montrent des facettes différentes de la pression sur les écosystèmes libres. La première, c'est l'acquisition de Tailwind Labs par Shopify. Ce qui est important, c'est que Tailwind CSS reste MIT et open source. Mais les produits commerciaux, Tailwind Plus et UI.sh, se ferment aux nouveaux clients.
Et il y a un chiffre qui a marqué les commentaires. L'IA aurait réduit le trafic doc d'environ 40%. Et ça, ça nourrit un débat sur le modèle économique de l'open source. Si les gens ne visitent plus la documentation parce qu'ils demandent à un assistant IA, comment finance-t-il le développement ? Certains disent que c'est un problème structurel que l'IA pose à tout l'open source documenté. D'autres répondent que les modèles d'affaires devront s'adapter, peut-être avec des licences ou des services.
Et l'acquisition elle-même est vue de deux façons. Certains disent que c'est une bonne nouvelle, que Tailwind aura des ressources et une stabilité. D'autres se demandent si l'orientation communautaire va survivre à l'intégration dans une entreprise. C'est un débat récurrent dans l'open source. Qu'est-ce qui se passe quand un projet devient stratégique pour une entreprise ?
Et pour mettre ça en perspective, il y a une rétrospective utile, Lotus Notes. En 1989, Lotus Notes avait déjà le chiffrement, le texte riche et la réplication avant que ces choses ne deviennent des standards. Et le produit tournait comme une plateforme applicative de type ERP, et il est encore utilisé aujourd'hui sous le nom de HCL Notes.
Et c'est un exemple fascinant, parce que Lotus Notes a survécu des décennies non pas grâce à sa licence, mais grâce au fait que des entreprises construisaient leurs applications critiques dessus. Et ça fait écho au débat sur Tailwind, dans le sens où la longévité d'un écosystème logiciel se joue à la fois sur les licences et sur l'usage réel. Tu peux avoir la meilleure licence du monde, si personne ne construit dessus, tu meurs. Et à l'inverse, tu peux avoir une licence restrictive. Si les gens construisent, tu survives.
Bon, maintenant on va parler de coder avec l'IA, avec deux histoires qui montrent deux facettes, une satirique et une sérieuse.
La satirique d'abord, opusfift.dev, un site interactif qui moque le codage agentique de Claude, qui est en fait trop pour des demandes aussi simples que rendre le bouton ajouté au panier bleu.
Et ça, ça résonne énormément dans les commentaires, parce que beaucoup de développeurs ont vécu ça. Tu demandes un petit changement, et l'agent refactore tout le projet, crée des fichiers, ajoute des dépendances, modifie des choses que tu n'avais pas demandé. Le site satirique capture une frustration réelle. Mais il y a aussi des défenseurs de l'approche agentique, qui disent que le problème, c'est le prompting, pas l'outil, et qu'il faut apprendre à cadrer les agents, à leur donner des contraintes claires.
Et en parallèle, un exemple sérieux de ce que le web permet maintenant, GNU Radio World, un éditeur de flow graph dans le style de GNU Radio Companion, qui tourne entièrement dans le navigateur via WebAssembly, avec support du RTL SDR sur Web USB sans installation.
Et ça, c'est une démo impressionnante du potentiel du web pour les outils techniques. Dans les commentaires, les gens de la communauté radio logicielle sont plutôt enthousiastes, parce que ça abaisse énormément la barrière d'entrée. Tu n'as plus besoin d'installer une chaîne d'outils complète pour expérimenter. Mais il y a aussi des questions sur les limites de WebAssembly en termes de performance et sur la dépendance au navigateur comme plateforme. Parce que le navigateur, c'est aussi un environnement contrôlé par quelques entreprises et on revient un peu au débat sur la discrétion des plateformes dont on parlait tout à l'heure.
Bon, un dernier sujet avant la conclusion et il nous ramène aux jeux vidéo. No Man's Sky fête ses 10 ans avec la mise à jour 7.0 appelée Cosmos.
Et cette mise à jour ajoute des choses assez substantielles. La direction de stations spatiales, des alliances galactiques, des bases orbitales et le sauvetage d'épaves.
Et No Man's Sky, c'est un cas intéressant dans l'industrie parce que c'est un exemple rare de longévité continue. Un jeu qui a eu un lancement difficile, mais qui a été soutenu et enrichi pendant une décennie. Dans les commentaires, il y a un respect sincère pour cette trajectoire, même de la part de ceux qui n'ont pas accroché au jeu. Et ça fait écho à ce qu'on disait sur Lotus Notes. La longévité, ce n'est pas une question de technologie. C'est une question d'engagement continu des créateurs envers leur communauté.
Bon, et pour terminer, on va prendre un peu de hauteur avec deux histoires qui parlent de données et du fait que l'accès aux données est souvent plus important que les données elles-mêmes.
La première, c'est Planet Labs, qui opère 97 satellites et qui capture une image de toute la surface terrestre chaque jour. C'est une capacité remarquable. Mais un fil de discussion souligne un problème, les prix. 30 000 $ par an pour 5% d'une côte surveillée, c'est un montant qui bloque les associations.
Et dans les commentaires, il y a un débat sur le modèle économique de l'observation terrestre. Certains disent que les prix reflètent le coût réel des satellites et que c'est normal. D'autres répondent que si l'objectif est de permettre la surveillance environnementale, les organisations à but non lucratif devraient avoir un accès préférentiel, parce que ce sont elles qui font le travail de surveillance que les gouvernements ne font pas toujours.
Et la deuxième histoire, c'est Itribele Spectrum, qui rapporte que la conduite autonome pourrait éviter 580 000 décès par an. Et les freins d'urgence autonomes, en particulier, réduisent les collisions avec des piétons de 27% et les collisions arrière de 50%.
Et là, le point commun avec Planet Labs, c'est que dans les deux cas, on a des données pléthoriques, des capacités techniques remarquables. Mais la vraie question, c'est l'accès. Qui peut utiliser ces données, ces capacités, et à quel prix? Que ce soit des images satellites pour une association environnementale, ou des systèmes de conduite autonomes qui pourraient sauver des vies, mais qui restent chers et inégalement déployés.
Et je pense que ça, c'est une bonne façon de conclure l'épisode. Sur tous les sujets qu'on a couverts aujourd'hui, il y a une tension entre la promesse technologique et la question de l'accès, de la confiance, de la transparence.
Exactement. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous.